conditions sur place.
Sud Radio, il est 13h.
Parlons vrai.
Les infos avec François Germa. Bonjour François.
Bonjour à tous. Les militants pro-palestiniens évacués de Sciences Po Paris par la police. La cinquantaine d'étudiants ont été saisis un à un et emmenés jusqu'à la sortie. Une intervention des forces de l'ordre demandée par le Premier ministre Gabriel Attal, appelant à la fermeté. Une présence policière sera maintenue aux abords de l'université pour éviter tout nouveau blocage. À noter que Sciences Po Lyon a également été débloqué par la police ce matin. Le Hamas dit étudier avec un esprit positif l'offre de trêve à Gaza, une trêve de 40 jours associée à la libération d'otages. Une délégation du Hamas se rendra bientôt en Égypte pour compléter les discussions. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou répète qu'il y aura une offensive terrestre à Rafah avec ou sans accord de trêve. La réaction du Kremlin après les nouveaux propos d'Emmanuel Macron sur l'éventuel envoi de troupes au sol en Ukraine. Les autorités russes jugent ces propos très dangereux. Emmanuel Macron n'écarte pas l'hypothèse d'envoi de troupes en cas d'une percée des lignes de front par Moscou. Après le fort épisode de grêle de la semaine, un quart du vignoble de Chablis dans l'Yonne est détruit dans sa quasi-totalité. Annonce du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Il assure que la solidarité nationale va se mettre en œuvre pour dédommager les producteurs touchés. Pour les professionnels, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont perdus. Selon eux, une vigne abîmée par la grêle a besoin de 2 ans pour retrouver son rendement. Objectif lune pour cette sonde chinoise qui décolle un peu avant 17h30 cet après-midi. Sa mission, collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune. C'est une première mondiale. Les 2 kilos de roches lunaires seront ensuite ramenés sur Terre et analysés pour mieux comprendre comment la Lune s'est formée. Et puis le foot avec 2 matchs de la 32e journée de Ligue 1 ce soir. Toulouse reçoit Montpellier à 19h et à 21h, Lorient qui lutte pour son maintien dans l'élite se déplace à Lens. Les Lensois sont toujours dans la course pour être européens la saison prochaine. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente après-midi.
Merci François Germain.
La météo Sud Radio
avec morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. morelauto.fr, le choix des marques et des services.
Et un point sur le temps avec Rémi André. Bonjour Rémi.
Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Eh bien oui, c'est une situation un petit peu mitigée aujourd'hui avec tout de même une tendance à l'amélioration par rapport à ces derniers jours. Surtout depuis le sud de la Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées, l'Occitanie jusque vers la Provence ainsi que la Corse où là c'est le soleil qui domine et qui va continuer de dominer dans l'après-midi avec des températures qui pourront atteindre les 17 à 19 degrés. En revanche, plus au nord, depuis la Bretagne jusque vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, le centre, eh bien là maintenant ce sont les nuages ainsi que les averses qui vont prendre le dessus, des averses qui progressent actuellement depuis les Pays de la Loire et la Vendée jusque vers le centre. Cela remonte en direction du Limousin et dans l'après-midi, eh bien le chemin va se poursuivre en direction de la Normandie, du bassin parisien, de l'Auvergne. Sur toutes ces régions, cela pourrait devenir d'ailleurs orageux. Sur le nord-est, eh bien, ça s'améliore également avec le retour des éclaircies. Les températures, quant à elles, eh bien, vont plafonner entre 11 et 16 degrés. Demain, eh bien, c'est une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest et qui va progresser sur la plupart de nos régions. Le week-end sera donc beaucoup plus instable.
Merci Rémi André. Et tout de suite, sur Sud Radio, la culture dans tous ses états.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente...
Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso.
Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous.
Et oui, le discours engagé d'Albert Camus lors de la remise de son prix Nobel, c'est en 1957, André Bercoff. Aujourd'hui, eh bien, il est l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. Et Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, lui rend un très bel hommage, un hommage très émouvant, dans un livre très personnel qui vient de paraître, André Bercoff, chez Plon.
Oui, Camus, notre rempart. Très très joli mot, notre rempart, parce que je rappelle que Camus a connu, Albert Camus, le purgatoire. Hein, il est mort en janvier 1960. Et je me rappelle d'un titre très ricanant qui s'appelait Albert Camus, philosophe pour classe terminale. Oui, il fut un temps où on disait, oui, Camus, l'humaniste méditerranéen, pas très sérieux, tout ça, c'est bien, c'est émotif, tout ça. Eh ben non. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a découvert effectivement ce qu'était Camus. Camus, le héros, H-E-R-A-U-T, des valeurs, d'un certain nombre de valeurs qui sont infracassables et qui sont extrêmement importants. Et justement, le livre d'Hubert Védrine est passionnant parce que il parle de cette totalité de Camus, aussi bien le Camus de noces, de l'été, de l'étranger. Et puis, Hubert Védrine a été effectivement à l'Élysée pendant 14 ans. Il a été 5 ans ministre des Affaires étrangères. Et puis, voilà, à ce stade, à un moment donné, il retrouve et il relit les œuvres complètes d'Albert Camus. Et puis, il voit quoi ? Quelqu'un, et non pas ce que disait Sartre, un homme de tous les hommes, fait de tous et qui vaut n'importe qui, il voit quelqu'un qui, effectivement, quelqu'un qui est à la mesure de l'homme, est à la valeur de l'homme, et qui, quand même, aujourd'hui, est d'une actualité absolument totale, Céline.
Et oui, Camus qui écrivait effectivement en 1944, mal nommé les choses, s'est ajouté au monde, au malheur du monde, pardon. Cette phrase est effectivement toujours d'actualité, André Bercoff. On va en parler dans un instant avec Hubert Védrine. Alors, restez avec nous. Camus, notre rempart, c'est dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons
vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis bien. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis bien. Pour donner des soins, j'agis. Pour préparer ma retraite, j'agis bien. Pour mon logement, j'agis. Pour assurer mon emprunt.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé.
Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des As de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
À tous ceux qui appellent un étendoir, un étendoir. À ceux qui disent étendage, mais pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20€ jusqu'à 30€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne!
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479€, soit 70€ d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3800€.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur conforama.fr.
French Days à Lando.
French Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. D'ailleurs, faut se dépêcher, les French Days, c'est jusqu'au 9 mai sur Zalando, avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Petit pauvre d'Alger, à Paris, naufragé, l'homme épuisé de femmes, de soleil et de larmes. Toi, l'homme révolté, par la misère hanté, qui préféra ta mère à la justice amère. Au Camus, je te pleure, mon héros, tu demeures. Toi qui es mort d'un Dostoïevski dans le cœur.
Albert Camus, cet immense écrivain qui vous a passionné dès l'enfance, Hubert Védrine.
Salué ici par Serge Lama.
Exactement, sublimement salué par Serge Lama. Hubert Védrine, sa haute passion ne vous a jamais quitté. Alors bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio.
Bonjour.
Jusqu'à 14h. Alors vous publiez chez Plon, Camus, notre rempart, un livre hommage très émouvant que vous introduisez par ce flash spécial que vous aviez entendu à la radio le 4 janvier 1960, à l'époque vous aviez à peine 13 ans.
Petit pont.
C'est de cet amas de ferraille que l'on a retiré le corps d'Albert Camus, coincé entre le tableau de bord et le dossier de son siège, d'Albert Camus qui avait été tué sur le coup. De la manière dont a été disloquée la voiture, on se rend parfaitement compte de la puissance du choc. On a retrouvé des parties de la machine à plusieurs dizaines de mètres du lieu de l'accident. Et Mademoiselle Gallimard a été projetée de l'autre côté de la route, agrippé à son coussin, ce qui lui a valu d'avoir la vie sauve. Son père, Michel Gallimard, qui était au volant, souffre de plusieurs fractures du crâne. Une roue avait, paraît-il, éclaté. La voiture marchait à grande allure. Quoi qu'il en soit, le bilan est tragique et il a causé dans notre région un émoi considérable.
Et oui, malheureusement, Michel Gallimard donc, n'a pas survécu à ses blessures, Hubert Védrine. La mort de Camus a été un choc pour vous?
Alors d'abord, j'étais ému tout à l'heure d'entendre la voix de Camus, parce qu'avant le choc de la mort que je raconte, c'est le début du petit livre là, très, très personnel que j'ai écrit. Mes parents m'avaient offert un disque après qu'il eut le Nobel. Il y avait un disque dans lequel il y avait des textes de Camus, des textes du Parigiani, des textes des pièces de théâtre, des morceaux de pièces avec Maria Cazares, avec Alain Cuny, enfin des gens comme ça. Donc j'avais déjà là, cette voix si particulière, nasillarde, dans l'oreille, et déjà une passion. Et avec quelques amis, on écoutait le disque sans arrêt, et j'en connaissais au moins 20 à 30 pages par cœur, en fait, de l'étranger, et de choses comme ça. Ce qui fait que quand arrive le choc, c'est quelqu'un auquel j'ai déjà développé une relation personnelle, si je peux dire, à
oui,
distance.
Alors que vous étiez enfant, encore.
Oui, je suis ado, quoi.
Oui, ado.
Je suis ado. Donc il y a ce choc, c'est le point départ de mon petit récit. Et après, j'ai continué, mais je suis entré dans le monde camusien. Alors, je suis pas un expert total, parce que j'ai découvert, là, grâce à vous, la chanson de Lama, qui est magnifique. Pourtant, je suis assez camusien par rapport à...
Bon. Et oui. Donc, je suis entré... Et adolescent, en fait, vous le dites dans votre livre, vous avez été ébloui par le Camus de l'étranger, de noces et de l'été.
Alors d'abord, c'est noces et l'été, notamment Tipaza, qui est très important pour moi, puis l'étranger. Le reste, je le découvre après.
Pourquoi Tipaza très important pour vous, Hubert Védrine?
Écoutez, j'étais ébloui, je ne sais pas, c'est mystérieux, mais dans Noces et l'été, il y a le texte de Camus dans les Essais avant la guerre, il y en a un après, Retour à Tipaza. Je trouvais ça tellement beau que dès que j'ai gagné un peu d'argent de poche en donnant des cours d'histoire géo dans une boîte privée, j'ai été à Tipaza. Ouais. J'ai passé deux journées à flâner dans Tipaza. Et c'est devenu une sorte de lieu un peu emblématique, imaginaire,
mythique, ouais,
pas forcément lié à l'endroit où c'est d'ailleurs. C'est très important et je suis revenu régulièrement par rapport à ça. C'est une sorte de définition de la beauté. Alors, on est avant, je dis quelque part, j'avoue qu'on est, je rappelle qu'on est avant 68. Ouais. Donc on n'est pas dans une
époque... Oui, on est en 1965 exactement.
65. Ouais. Donc je rappelle qu'on n'est pas dans une époque de sexualité débridée, pour dire les choses directement. Donc il y a une sorte de sensualité contenue chez un jeune adolescent, et les mots de Camus, à mon avis, là-dedans, dans Nos, dans Antipasar, ou une fois, d'autant plus considérable qu'on est dans ce moment-là. Après, ça m'a jamais quitté. Mais j'ai reçu d'ailleurs, depuis que le livre est paru il y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai déjà reçu des petits messages de gens qui disent « Tipaza a beaucoup compté sur moi ».
Ah oui, et vous dites que Tipaza aura été votre colline inspirée, comme celle de plusieurs gens de votre génération, en quelque sorte.
C'est une sorte de méditation autour de la beauté, la sensualité. Bon, il y a l'écriture de Camus, il y a le Sud, il y a la Méditerranée, que j'ai découvert à d'autres endroits, mais enfin, en tout cas, c'était très fort. Donc le témoignage, c'est que j'entre dans Camus, pas par le mythe de Sisyphe, pas par l'homme révolté,
pas par la philosophie,
par la sensualité, on va dire.
Par la sensualité, le soleil, l'Algérie, et la beauté. Et la beauté, absolument.
Et oui, il faut dire que...
Bon, l'étranger, c'est vrai aussi, mais quand je le relis maintenant, je le dis, c'est à la limite de la provocation, mais je dis, c'est un drame de la canicule, en fait. Quand on lit L'étranger aujourd'hui, l'impression de chaleur accablante, sans arrêt.
Un drame du réchauffement climatique, c'est ça?
C'est avant le réchauffement. Donc vous voyez, c'est encore pire après.
C'est encore pire après.
Alors justement, vous parliez effectivement de ce disque que vous écoutiez sans relâche quand vous étiez adolescent. Écoutons un extrait où Camus lit des pages de L'étranger.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 h. Il faisait très chaud.
Très très beau, c'est le début, Hubert, c'est le début.
Oui, c'est le début.
C'est tout à fait le début, et c'est fabuleux d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit aujourd'hui, on peut le citer, combien par exemple un Kamel Daoud qui est éditorialisé dans Le Point, au jour de l'hebdomadaire, est inspiré de Camus. Enfin, il a fait d'ailleurs une espèce
de... Je parle de lui, j'ai parlé avec lui.
Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, effectivement, oui.
Et vous savez, dans le texte qu'on vient d'entendre, donc c'est le cas dans toute l'écriture de Camus, il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot à enlever. C'est très rare, ça. D'où la force, à mon avis.
C'est l'écrivain. Alors,
dans la suite de l'affaire d'étranger, après l'assassinat de l'arabe sur la plage, je dis l'arabe parce qu'il n'a pas de nom, précisément, et certains lui ont reproché, sur la plage, le procureur qui va réclamer la peine de mort va se servir de ça pour montrer l'insensibilité monstrueuse du personnage qui est Meursault par rapport à la mort de sa mère.
Oui, et c'est fabuleusement écrit, et c'est vrai, c'est magnifique. Et la chose la plus importante, je trouve, c'est quand vous dites « on a pénétré », et c'est vrai, vous avez connu Camus par la sensualité, par le soleil, par la plage, par la mer, et lui, au fond, quelque part Hubert Védrine, c'est que toute la philosophie, c'est ce qui le différencie de Sartre, mais de beaucoup d'autres, il a été marqué par ça, c'est-à-dire si c'était pas un terrien méditerranéen, il aurait pas écrit les mêmes choses, et pensé les mêmes choses.
Oui, et on peut ajouter que s'il n'était pas d'une famille ultra pauvre, vraiment pauvre, un point inimaginable, vraiment les pieds noirs basiques arrivaient de Minorque, avec une grand-mère et une mère analphabètes. C'est dingue, il y a eu le prix Nobel après. Ouais. Donc il y a tout cet élément-là.
Même sa mère était analphabète.
Elle était à moitié sourde. Enfin bon, il y a quand même des handicaps incroyables jusqu'à ce qu'un personnage merveilleux auquel il va dédier le discours de Suède du prix Nobel, Monsieur Germain, l'instituteur. C'est extraordinaire, c'est l'instituteur.
Les hussards noirs de la République.
Il va détecter chez le jeune Albert qui veut surtout faire du foot, en fait, avec ses copains dans la rue, détecter un don, une capacité. Il va essayer de convaincre la grand-mère, qui est une femme dure, une espèce de paysanne, qui a le plus grand mal à nourrir la famille. Donc il va essayer de convaincre la grand-mère qu'il faut qu'elle accepte la bourse. qu'il a trouvé pour ce jeune garçon. Elle a dit, oui, mais il est déjà employé dans la quincaillerie, puis on a besoin de son argent. Vous savez, c'est comme dans les vies paysannes, ça.
Eh bien sûr.
Donc le rôle de Germain, c'est incroyable, quand on pense
il lui a changé la vie.
Complètement. C'est magnifique.
Alors, à l'adolescence...
Donc il garde ça tout le temps.
Eh oui.
Et quand il y aura les débats dans le Paris féroce d'après la guerre, le Paris très très progressiste, il y aura toujours cette dimension. Moi, je suis d'origine pauvre en vrai. D'ailleurs, dans la polémique avec Sartre, où je trouve Sartre effrayant, mais il est toujours brillant, brillantissime, mais effrayant.
Bien sûr.
Il lui dit, vous avez peut-être été pauvre, mais vous ne l'êtes plus. Enfin, ça joue un rôle, hein.
En fait, Camus, Hubert Védry, c'est le contraire de ce qu'on appelle aujourd'hui les bobos gauchos.
Le contraire absolu, oui.
Les antipodes.
Oui. Alors, à l'adolescence, vous êtes, on l'a dit il y a quelques instants, vous êtes surtout intéressé au Camus, donc écrivain. Qu'est-ce qui fait, vous qui rêviez de devenir journaliste, vous ne vous êtes pas intéressé justement au Camus, journaliste, engagé et très courageux, surtout l'éditorialiste qu'il a été?
Bah, je l'ai découvert après, mais vous savez, j'ai eu ce flash, coup de foudre en quelque sorte. Puis après, la vie continue, hein. Pour préparer les examens, le bac, entrer à Sciences Po, faire des voyages. Je rêvais de voyages sans arrêt. Donc, c'est toujours en fond de ma propre vie, après. Mais la vie galope. Et donc, je ne me suis pas interrogé sur le Camus journaliste à ce moment-là. Mais quand j'ai revu, après, quand j'ai relu, de ce qu'il écrit et tout ce qu'on a écrit sur lui, c'est là où j'ai vu que, par exemple, le reportage sur la misère en Kabylie était un élément fondamental.
Ah oui, c'était en 39. Ouais.
Voilà.
39, ouais.
Et
ouais,
il a vu la vraie misère, donc il n'oubliera jamais ça. Donc il sera toujours de, quelle que soit la violence de l'affrontement avec le clan progressiste, on va dire, il sera toujours de gauche de cette façon-là.
Est-ce qu'on peut comparer, et attention, comparaison n'est évidemment pas raison, le retour à Tipaza de 52 de Camus avec le retour du RSS de Gide?
Non, parce qu'il n'y a pas la dimension politique, ça n'a pas les mêmes conséquences, et ce que dit Gide a une importance énorme par rapport à une époque où c'est tout à fait impossible de critiquer l'URSS, de dire qu'il y a des goulags, enfin le mot apparaîtra après avec Solzhenitsyn, donc ça n'a pas la même importance, mais il y a un côté, la guerre est passée par là. Entre le Tipaza d'avant la guerre et puis le Tipaza d'après, Tipaza sous la pluie, entouré de barbelés, c'est pas le même monde, même si ça joue un rôle dans le cœur de Camus. Donc on ne peut pas comparer les deux. En revanche, quand il y aura le débat, lui contre Sartre, et que Camus dira dans L'homme révolté, on a des tas de raisons de se révolter, mais il n'empêche que ça ne justifie pas le meurtre politique. Jamais, comme dans la pièce où il met en scène l'anarchiste russe qui lance pas la bombe contre le grand-duc parce qu'il y a des enfants dans la voiture. Bon, donc il y a un élément fondamental de rupture, là, mais pas dans Retour à Tipaza.
Non, mais ce qui
vous avez la même pensée, moi.
Enfin, oui, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Camus a effectivement tout le temps, alors que la doxa progressiste au sens gauchiste du terme de l'époque était absolument prégnante, lui dit, n'oubliez
c'était
pas...
C'était plutôt stalinien que gauchiste. Hein.
Stalinien, oui, c'est vrai.
Mais on est encore sous Staline. Hein.
C'est vrai, mais enfin, les gauchistes staliniens, ça existe encore aujourd'hui. Mais
après, oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand il a dit, je voudrais qu'on passe un peu, quand il a dit, je n'oublie pas ma mère par rapport à la justice et sa mère, ce qui a été fondamental, ça. Parce qu'il dit la justice, c'est-à-dire, si tu avais un certain nombre de gens qui disaient, c'est ça le droit. Je disais, oui, mais n'oubliez pas ma mère.
Oui, mais c'est plus conjoncturel, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais en fait, il est à Stockholm pour recevoir le prix. Et il y a le discours de Suède, et puis il y a une conférence de presse. Et là, il y a un étudiant algérien, nationaliste, qui vient l'attaquer, un peu l'agresser, parce que les positions de Camus sont pas claires du point de vue du nationaliste. Camus n'est pas pour l'indépendance de l'Algérie n'importe comment. Il pense à ce peuple, non pas des colons. Il y a des colons, très bien. Ouais.
Il y a
toute une population. Il y a des grands colons qui sont durs. Il y a des moyens colons. Et puis il y a une population basique. D'où vient sa famille? Et quand la question lui est posée, il y a du terrorisme à Alger. Il a peur que sa mère, qui vit à Alger, monte dans un tramway, soit victime d'un attentat.
Oui.
C'est là où il dit, entre la justice et ma mère, désolé, mais je pense d'abord à ma mère, en fait. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il balait la justice.
Non.
Donc il y a une interprétation exagérée de ça. Et d'ailleurs, dans un livre récent, Dictionnaire amoureux de Camus, par Mohamed Essaoui, très bien, il raconte que l'étudiant en question, après, il a pas eu le remords de ce qu'il a dit, mais il a voulu rencontrer Camus pour lui parler. Mmh. Et trop tard, Camus est mort.
Et, oui,
et donc il a été sur la tombe de Camus à Lourmarin.
Vous y avez été vous-même ?
Oui, j'y ai été avec mon ami mon collègue devenu ami, Joschka Fischer, le chef des Verts allemands, ouais, qui lui respectait énormément Camus comme la figure de l'antitotalitarisme à l'époque où c'était presque impossible à assumer.
Oui. C'est vrai, à l'époque, il passait...
Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez, en 2002, relu effectivement son œuvre. Il y a des textes qui vous ont particulièrement marqué.
À partir de 2002, disons.
Exactement, quand vous avez quitté le gouvernement, en quelque sorte. Les textes qui vous ont particulièrement marqué, c'est Le Premier Homme. On peut dire que ça reste son texte majeur.
Il y a des textes un peu oubliés. Enfin, l'ensemble de l'œuvre est majeure. Il y a des textes un peu oubliés, comme la préface de L'Envers et l'Endroit, qui est formidable, où il y a toutes les suites. Et alors, il revient toujours à la mer. Il dit j'ai vécu dans la misère et le soleil. On a du mal à associer les deux dans notre tête. Mais oui, il y a plein de textes formidables à relire ou à découvrir. Mais je trouve que le livre posthume, qui était dans la fameuse voiture qui a explosé, là, contre le platane,
lors de son accident,
Le Premier Homme, qui a été publié grâce à Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, qui a donné son accord au bout d'un certain temps.
Et ouais.
C'est un texte magnifique, absolument magnifique, qui reprend la trame. Et comment dire, ça ordonne l'ensemble de ce qu'il a dit aux différentes époques, quand il a eu sensibilité. Il a même été membre du Parti communiste à un moment donné, brièvement, mais il n'a pas attendu, il a compris.
Mais c'était en Algérie encore, là.
En Algérie,
c'est ça.
Avant la guerre.
Ben,
avant la guerre. Il n'a pas attendu les événements qui ont amené certains autres, mais longtemps
le
après.
Le rapport Khrouchtchev, etc., et Solzhenitsyn.
Il n'a pas eu besoin de ça pour sortir. Ouais. Enfin, il y a tout un itinéraire. Après, il y a toujours la famille, mais tout ça est absolument, parfaitement fusionné, parfaitement harmonisé. Les mots sont magnifiques. L'écriture de Camus, que je trouve formidable, émouvante depuis le début, est encore plus claire. Et c'est immensément... évidemment, c'est tragique qu'il soit mort si tôt. Mais il avait annoncé que c'était le début d'un nouveau cycle. Il y avait d'autres livres en préparation, qu'on ne connaîtra jamais. En tout cas, c'est merveilleux, ce livre.
Oui.
Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ils peuvent entrer dans Camus par ce livre, à mon avis.
Le premier homme.
En revanche, vous dites que vous avez eu du mal à re-rentrer dans la peste.
Oui, alors, j'ai lu un peu par acquis de conscience Le mythe de Sisyphe, L'homme révolté, important dans l'affaire de la polémique. Et La Peste, je trouve ça bien, mais il y a un côté un peu lourd dans La Peste. D'ailleurs, elle est utilisée souvent de façon un peu lourdingue dans les transpositions. Mais bon, c'est un grand texte, bien sûr. On voit bien ce qu'il veut dire, mais on ne peut pas non plus extrapoler à toutes les situations de 20 ans, 30 ans, 50 ans après. Bon, c'est important, je ne néglige pas, mais j'ai pas eu la même sensibilité spontanée, même s'il y a des personnages magnifiques, comme Rieux, dans La Peste.
Oui.
Juste un mot, par rapport à ça, c'est intéressant, parce que ça n'a rien à voir, mais vous voyez, vous parlez de la misère et du soleil. C'est intéressant, quand même, la chanson d'Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Oui.
Ce qui n'est pas faux. Est-ce que Camus...
Oui, parce qu'il parle beaucoup de la grisaille de Paris. Il n'aime pas Paris, en fait.
Ah oui, il n'aimait pas. Oui.
Il n'aimait pas Paris.
Il disait déjà à l'époque, il disait Paris est sale, il y a des pigeons.
Oui, et alors il
dans
aime
l'étranger,
pas
ouais.
Le genre d'intello progressiste d'après la guerre qui se rattrape en faisant des tonnes. Bon, il n'aime pas ça. Mais la ville, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ça. Donc on revient toujours au soleil. C'est pour ça qu'il va,
à cette lumière,
après
des années,
aboutir à Lourmarin, à mon avis.
Et oui, et Lourmarin était... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est intéressant, on va en parler en seconde partie d'émission, mais quand même, vous vous dites Camus notre rempart, mais est-ce que vous pouvez dire aussi Camus notre contemporain, 60 ans après sa mort, plus de 60 ans après sa mort?
Alors, il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit tiré par les cheveux.
Non, c'est
un peu la tentative critiquable, je reconnais, et un peu exagérée, à la fin du petit essai. Mais d'abord, le rempart, c'est le rempart contre le fanatisme. Compte tenu de la façon dont il a été déchiré, légitimement, honorablement, dans l'affaire de l'Algérie, il n'aurait jamais pu être manichéen après. Il n'aurait jamais été binaire. Or, la plupart des gens contemporains, surtout à l'époque des réseaux, de l'Internet, qui extrapolent tout, sont binaires.
Un peu binaire, c'est jamais été. De dire.
En tout cas, au fil du temps, Hubert Védrine, votre passion pour Camus n'a jamais faibli. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Alors, à tout de suite, restez avec nous.
Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso.
Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME, à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr.
L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprentis, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique.
Sud Radio H.
102.
Sud Radio.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Ah, le patron ?
Là, j'aspire au calme.
Bah, c'est raté. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, Lidl fait moins 33% sur l'aspirateur sans fil Silvercrest garanti 3 ans. Soit 19,99€ au lieu de 29,99€.
Moins de 20€ l'aspirateur 2 en 1. On nous vend du vent.
Ah non, patron. Plutôt un aspirateur à main et balai avec technologie cyclonique et filtre EPA.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 50 centimes d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Bière Pélican, présente. Nous sommes actuellement en présence d'un remarquable spécimen de bière Pélican. Observez sa couleur dorée. Pas de doute, c'est bien une bière blonde Pélican. Pour révéler son goût généreux, la bière Pélican amorce son rituel de service. Un retournement de sa bouteille qui permet de remuer les levures et donner tout son caractère à la bière Pélican non filtrée. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Allô Mel ?
Oui ?
Faut que je te raconte, je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non !
Mais si ! Et si à partir de 2€ le t-shirt, il t'en prend 3.
Mais non !
Mais si ! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous !
Distri Center, voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au quintet plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit 2 fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Et là t'as dit 3 fois super.
Bah oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus.
PMU.
Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et vous aussi, Hervé.
Mais c'est pas vrai.
Si, si, je vous assure. Et écoutez ça. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à 12,90€ le kilo.
Du faux filet à seulement 12,90€ le kilo? Je veux pas le croire.
Pourtant, c'est vrai.
Non, mais je dis pas que c'est faux, mais...
Mais à 12,90€ le kilo, faux filet chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Viande bovine, 4 faux filets, 3 étoiles à griller, barquette de 640 grammes environ. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Quand j'habitais Alger, je patientais toujours dans l'hiver parce que je savais qu'en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année pourtant, elle persistait, juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. Ce n'est pas là un symbole. Nous ne gagnerons pas notre bonheur avec des symboles. Il y faut plus de sérieux. Je veux dire seulement que parfois, quand le poids de la vie devient trop lourd dans cette Europe encore toute pleine de son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants où tant de forces sont encore intactes. Je les connais trop pour ne pas savoir qu'ils sont la terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer.
Et oui, Serge Reggiani, André Bercoff qui lit Les Amandiers d'Albert Camus. Ce lumineux petit texte incorporé à l'été m'habite lui aussi encore. Écrivez-vous, Hubert Védrine, dans votre livre Camus, notre rempart, paru chez Plon. En fait, votre passion pour Camus ne vous a jamais quitté. Et au cours donc de votre vie trépidante, vous le racontez, des rencontres vous ont envoyé des signaux camusiens, notamment celle avec René Char. Comment vos chemins s'étaient-ils croisés ?
Eh bien, dans l'époque où je suis adolescent et on écoute le disque, Marie-Claude Billet, l'assistante de mon père, elle est, il y a un groupe d'amis, familial, il y a tout un groupe autour de mes parents qui étaient des gens exceptionnellement accueillants, ouverts, rayonnants, tout ce qu'on veut. Et Marie-Claude en faisait partie. C'est une sorte de, d'amie d'enfance pour moi, une sorte de cousine, on va dire. Et longtemps, longtemps après, elle devient la femme de René Char. Après d'autres péripéties. Voilà. Enfin, péripétie, le terme.
Oui, non, mais péripétie, on veut dire. Et vous connaissez, évidemment, vous connaissez l'œuvre de René Char.
Je l'ai rencontré parce que c'est l'époque où René Char ne voulait pas donner ses archives, qui étaient magnifiques, aux archives de L'Île-sur-la-Sorgue.
Oui, il avait des trésors de lettres, notamment des échanges avec Camus, c'est
pas
ça.
Avec Camus, ouais. Enfin, beaucoup d'autres, ouais. Toute l'après-guerre.
Ouais, ouais.
Et donc Marie-Claude me demande de venir, et j'ai passé deux après-midi à l'époque avec mon épouse et mes deux enfants, on était souvent dans le Luberon à l'époque, à essayer de convaincre Charles qu'il pouvait avoir confiance aux institutions en question, mais il s'en méfiait beaucoup, il y a des gens qui s'étaient mal conduits pendant la guerre, c'est bon. Donc on a eu des discussions de ça, et j'ai eu quelques contacts avec lui à partir de là. Évidemment, j'en ai profité.
Et oui, vous l'avez longuement questionné donc sur Camus.
La façon d'en parler, c'était, ils étaient fraternels. Il suffit de voir les textes entre eux, les lettres, le visage de Charles quand au moment de l'enterrement de Camus à Lourmarin. Enfin, c'était absolument fondamental. Et après que Camus et loué différentes maisons dans le Luberon, dans le coin. Finalement, il a trouvé une maison à
Lourmarin.
À Lourmarin, qu'il a acheté au docteur Bonneau. Mais donc, Charles l'a conduit là. C'est l'époque où, quand ils sont pas très... Ils s'entendent bien, mais ils sont pas aussi intimes qu'après. Charles Camus lui dit « Aidez-moi à trouver, j'en ai marre de la pègre parisienne. » C'est la pègre intellectuelle.
Hein. Oui, bien sûr.
Pègre intellectuelle. Donc, « Aidez-moi à trouver quelque chose. » Et on voit bien que le Luberon est quelque chose qui lui rappelle un peu l'Algérois. Et puis, il laisse faire venir sa mère. Enfin, donc, Charles est très lié à ça. Donc, je suis enchanté d'avoir été associé, d'avoir pu échanger avec lui sur ce point.
Oui, on peut dire que Camus s'y est vraiment senti heureux dans cette région de France.
Dans la région, ouais. Oui, mais dans la maison de Lourmarin, il en a bénéficié que 2 ans. Hein.
Et oui, c'est ça, c'était la fin.
Et oui, c'était en 58 et 56.
Alors, c'est pas le même pays, mais il y avait au moins la lumière, le soleil, la beauté, les saisons, enfin tout l'ensemble provençal.
Je voudrais revenir à la question que qu'on posait à Hubert Védrine sur justement un peu d'Uchronie, mais au fond, est-ce que Camus, je rappelle, mort en janvier 1960, ça veut dire il y a presque 65 ans.
Et donc avant l'indépendance de l'Algérie, par exemple.
Donc, 7 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Je ne parle pas philosophiquement, parce que Dieu, ce serait une question idiote. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit dans le bouleversement du monde?
D'abord, il y a l'exigence d'éthique sur la langue. On l'a rappelé au début, il faut nommer les choses justement. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Vous voyez à quel point on doit être malheureux en ce moment, parce que bon. Donc, il y a cet élément-là. Après, chacune des phrases, quand on les réentend, là, que ce soit sa voix à lui, ou Reggiani ou autre, vous voyez bien que ça résonne, même maintenant. Il y a une force incroyable dans la formulation. Donc, il y a une sorte de génie de la maîtrise de la langue dépouillée. Après, je suis frappé en relisant de sa distinction permanente. Il est contre l'engagement. T'es pas un écrivain engagé.
Ouais.
Il est contre l'engagement, parce que l'engagement, c'est sartrien.
Mais il était engagé, oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est par rapport à Sartre.
Oui, mais
il était engagé.
Il dit, on est embarqué. Ouais. On n'a pas le choix. On est embarqué dans notre époque, dans notre temps. Il faut se comporter bien par rapport à ça. Donc, on a le droit d'être révolté, mais il n'empêche que ça ne justifie pas n'importe quoi. Donc, il y a un fil conducteur. Mmh. On peut continuer, quelles que soient les époques. Après, donc, comme je l'ai dit, il a écartelé sa mère à l'Algérie. Il n'aurait été manichéen sur rien, à mon avis. Dans tous les grands événements depuis, il n'aurait pas été des gens qui prennent totalement parti pour un camp contre un autre.
Il n'y a pas le cœur du bien et le cœur du mal.
Je peux pas le prouver, hein, ouais, c'est audacieux, mais je crois pas qu'il aurait été comme ça. D'ailleurs, à un moment donné, où il commence à être représenté comme moraliste, ou alors il y a la fameuse expression après pour classe terminale, si seulement c'était vrai, on pourrait dire. Si je suis enseigné en classe terminale, ce serait déjà super, bon. Quand on le présente comme ça, il réagit contre ça. En disant, oui, mais je suis pas comme ça, je suis plus compliqué. J'en ai marre de ce gargarisme moderne. Gargarisme. C'est tout le côté sur les valeurs, la morale, tout ça. Il est hyper moral, mais en même temps, il veut pas être ramené à ça.
C'est ça.
Et il décrit des situations complexes. Ce qui fait que je l'imagine pas du tout, moi. Encore une fois, n'importe qui peut me démentir, mais,
mais
restant dans le débat à Paris, les colloques, les trucs, bon, ça, je crois pas. Je l'imagine en ermite de Lourmarin.
Est-ce qu'il était
recevant à Lourmarin des personnalités, comme Jean Daniel, bien sûr, René Char, c'est son pote, c'est différent. Mais Simon Lest, des gens comme ça, vous voyez, Orwell, des gens comme ça, c'est ça que j'imagine.
Et vous l'imaginez aussi en écolo convaincu
Alors, il faut faire attention, certainement
oui,
pas le mot écolo.
Écolo, oui, il faut faire attention au mot.
Si on enlève du mot écologie le sens écologie politique, oui, d'accord, on peut dire ça, mais c'est pas du tout un écologiste politique. Aucun risque qu'il soit comme ça. Mais il a une telle sensibilité à la beauté.
À la nature, très rare, aux animaux.
À la nature. Ouais. Je cite quelques passages, mais sa façon de parler de la nature, des plantes, des odeurs, de la chaleur, des animaux. Donc je pense qu'il aurait été de plein pied dans l'idée que, quand même, le système hyper-productif incroyable depuis 2 siècles a mis en danger la vie sur la planète, quoi. Pas la planète, la vie sur la planète. Donc je crois qu'il aurait été plutôt comme ça. D'ailleurs, je reprends le discours de Suède. Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. La mienne, c'est du moins qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande.
On ne le défasse pas. Ouais,
on ne défasse pas. Bravo. Et donc, je l'applique à ça. Mais c'est une interprétation qui est la mienne. Hein. Mais c'est ce qui me paraît le plus solide, le plus actuel, le plus vivant aujourd'hui, en 2024.
Ouais. Hubert Védrine, par rapport à son œuvre et par rapport à sa vie, puisque vous parlez de ça dans votre livre, on peut dire que c'était quelqu'un de courageux.
Oui.
Ça ne veut pas dire opposé à lâche, hein, mais courageux, ça veut dire qu'il prenait chaque fois qu'il le pouvait des positions, etc.
D'abord, je trouve qu'il était courageux de dire ce qu'il a dit sur l'Algérie. Il aurait pu ne pas répondre ou trouver une formule en mélangeant les hypothèses. Je ne sais pas comment ça va tourner, il y a plein de scénarios, on verra bien. Bon. Non, il est courageux par rapport à ça. Après, je le trouve très courageux quand il résiste à la furie sartrienne de l'époque.
En 52,
Sartre,
oui.
Sartre est un immense personnage, hein, ouais. Je peux le diminuer.
Non, mais
et puis le...
Oui, parce qu'il est quasiment seul, en quelque sorte.
C'est ce que c'est ça que je voulais dire.
Ouais.
Mais je dis au passage sur Sartre, faut pas que les gens qui nous écoutent se trompent.
Oui.
C'est un immense personnage. Si on relit les mots, par exemple, on est ébloui.
Chef-d'œuvre.
Plusieurs préfaces, éblouissant. Il n'empêche que là, il est quand même à la tête d'une espèce de règlement de compte contre Camus. Et Camus résiste. Il est en situation de... Il est menacé d'être cancellé, pour parler des termes contemporains. La cancel culture. À peu près tous les intellectuels qui influencent les médias de l'époque, qui sont beaucoup moins influents qu'aujourd'hui, donc la presse écrite, les éditeurs, la vie intellectuelle dans le 6e arrondissement, etc.
Mais justement,
seul,
d'où il a tiré la force à l'époque pour résister à cette cancellation,
je ne sais pas, de lui-même, de sa nature, de M. Germain.
De ses origines.
La fierté de ses origines, le fait qu'en fait, fondamentalement, il n'est pas de ce monde-là, et que quelque part, même si 99% des intellectuels de l'époque lui tapent dessus, il n'est pas du même monde. Donc il n'est pas déstabilisé personnellement. J'essaie de comprendre. Alors, il a, à côté du René Char, donc son pote, il a... il y a Romain Gary.
Gary, ouais.
Et un autre personnage inclassable. Et il a Jean Guéhenno.
Ouais, c'est ça.
Ce sont à peu près les seuls qui le défendent.
Oui.
Donc il est en situation de harcèlement par la cancel culture de l'époque.
Oui.
Et il résiste, il tient bon. Alors, il a envie de quitter ce monde parisien, d'où le Luberon, du Lille sur la Sorgue, puis... Le marin. Et puis il va rester dans le débat, et puis il écrit, il publie le premier homme, il aurait continué à écrire d'autres, il aurait écrit, hein. Mais je crois qu'il se serait détaché de ce milieu, parce qu'on lui aurait pas, on n'aurait pas pardonné la distinction que je rappelais entre engagement et le fait d'être embarqué.
Et en même temps, vous en parlez, Bérédrine, ce qui est formidable, parce que ça, c'est le côté politique, et en même temps, toute sa correspondance d'amour avec Maria Cazares est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait ça, il y avait le Camus politique ou le Camus philosophe, et puis la Camus homme.
Bien sûr.
Homme amoureux.
L'homme, c'est d'abord la fidélité au milieu d'origine, hein, la famille. Sans arrêt, il y revient. Sa mère, c'est fondamental. Bon, le Camus homme et les femmes. Mais je ne crois pas qu'il aurait été. Il aurait été démolissable, si je puis dire, par un courant féministe à l'américaine.
Oui, vous dites qu'il aurait été étranger au MeToo, au hashtag. Cette ère-là, il n'aurait pas du tout adhéré.
Ouais, j'en sais rien, mais. Je pense qu'il n'aurait pas été tellement attaquable. Parce que ce n'est pas du tout un prédateur, en fait. Il n'y a aucune masculinité toxique, je le dis, pour employer les termes d'aujourd'hui, chez lui. Et on voit bien des témoignages de femmes qui l'ont aimé passionnément. Même sa femme, qui pouvait en souffrir. Mais il y a quand même des attachements, ça n'a rien à voir avec le prédateur compulsif.
Hein. Non, je crois que là-dessus, enfin, en tout cas, je parle
à titre purement personnel. Pas du tout, il n'y a pas de donjuanisme maladif.
Oui, mais vous savez très très bien, enfin, la connerie contemporaine étant celle qu'elle est, on ne sait pas ce qu'il aurait été, mais il aurait été capable, puisqu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri de la connerie woke. Enfin, je dis à titre personnel. Mais
si vous parlez de quoi, vous parlez du fanatisme en fait,
voilà.
pas la connerie.
Voilà, je parle, oui, non, mais du fanatisme qui s'apparente quand même à quelque chose d'une bêtise glauque. Mais je reviens à ça. En fait,
il aurait été furieusement défendu par Maria Cáceres, par exemple.
Ah oui, sûrement. Comme hein? Catherine Deneuve aujourd'hui défend un certain nombre de gens. Juste un mot, Hubert Védrine. Au fond, Camus, c'est vrai, quand on regarde avec le recul, il avait cet extraordinaire sens de la nuance. Il n'a jamais été manichéen. C'est ça qui est très frappant quand on le relit. Enfin, je n'ai pas tout relu, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait ces mots extrêmement charnels, mais vous le racontez dans votre livre, c'est pas quelqu'un qui était engagé, mais pas dans le côté « c'est moi le camp du bien et c'est vous le camp du mal ».
Il est très équilibré. D'ailleurs, il y a des passages où il se définit comme étant étranger au monde chrétien. Au monde chrétien, mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité, mais c'est quand même un monde qui a déterminé le bien et le mal. Il y a la vérité, et ce qui n'a pas été révélé. Donc il est plutôt inspiré par l'idée qu'il se fait de la philosophie grecque. Il revient sans arrêt au principe d'équilibre. Donc contre la démesure, contre l'hubris. Donc il y a un élément fondamental chez lui qui le guide et qui, je crois, là on ne peut pas se tromper, c'est vrai, il continue à le guider.
Juste un mot, avant de 58, De Gaulle arrive au pouvoir, il a pris position.
Alors, on dit qu'il l'a vu, mais il n'y a pas de résultat de l'échange. Mais si on reprend les conversations, par exemple, de Jean Daniel, dont je parle beaucoup parce qu'il a, quand même, ils se sont connus, et puis Jean Daniel s'identifie à lui à certains moments.
Oui, vous dites de lui qu'il a été effectivement votre intercesseur avec le Camus chamanique, en quelque sorte.
Non, le chaman, c'est Jean Daniel.
Oui.
Donc, il est l'intercesseur pour moi qui suis passionné par tout ça, je fais parler Jean Daniel chez Camus, comme si, vous voyez, on faisait tourner les tables.
Il s'habillait comme Camus, il mettait son par-dessus, quand même l'imperméable.
Jean que j'adorais, on a une relation magnifique, ouais. Jean Lacouture, Jean Daniel, bon, on a une relation magnifique. À un moment donné, il avait dit qu'il s'était débarrassé de ce despotisme, parce qu'il avait sans doute été trop loin dans l'identification, dans le regard des autres. Ouais. Il a une pensée à lui. Mais tout ce que Jean Daniel a écrit, qui a été rassemblé dans un livre passionnant,
par
Daniel et par son compagnon, est très très fort, c'est complètement camusien par rapport à ça. Et Jean Daniel dit sur l'affaire de l'Algérie que Camus était quand même plus lucide qu'eux, plus tragiquement lucide, à l'avance. Donc c'est pas absurde de lier les deux. En réalité.
La profondeur de leur désaccord sur l'Algérie a été la cause de la rupture de leur amitié.
Mais je ne sais pas s'il y a une vraie rupture, en fait.
Mais ils ne se sont pas parlé pendant des années.
Oui, ils
ne se
sont pas parlé, parce que oui, mais il y a plein de gens qui ne se sont plus parlé. L'époque était
destructrice. Bon.
Et quand il y a le Nobel, et que Jean Daniel lui écrit, pour lui dire quand même son admiration, son affection, etc., etc., Albert Camus lui répond en disant « L'essentiel, c'est que nous soyons, vous et moi, partagés là-dessus, que nous en souffrions. Ouais. » Donc il y a quand même quelque chose, il se serait évidemment réconcilié après. D'ailleurs, quand j'imagine, moi...
Et ils n'ont pas pu se réconcilier, non, effectivement, malheureusement.
Et quand j'imaginais Camus, l'ermite de Lourmarin, là, j'imagine Jean Daniel, là, très souvent, j'imagine un long livre d'entretien... Penser. Énorme entre les deux.
Eh oui.
Best-seller.
Mais Camus serait occupé du théâtre que Malraux voulait lui donner.
C'est vrai.
Eh oui,
il y aurait
ça,
ce lien avec le Paris non pas des villes, mais le Paris du théâtre.
Là, on peut rêver. On peut rêver à Hubert Védrine, mais vous avez raison de rêver.
Et eh oui, Camus, notre rempart. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et vous aussi, Hervé.
Mais c'est pas vrai.
Si, si, je vous assure. Et écoutez ça. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à 12,90€ le kilo.
Du faux filet à seulement 12,90€ le kilo? Je veux pas le croire.
Pourtant, c'est vrai.
Non, mais je dis pas que c'est faux, mais...
Mais à 12,90€ le kilo, faux filet chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Viande bovine, 4 faux filets, 3 étoiles à griller, barquette de 640 grammes environ. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Respire. Tu ressens cette liberté? Viens vivre l'incroyable. Ça y est, on y est. Hé, hey, regarde, je crois qu'on est suivi. Pas besoin de photos. Ça ne s'oublie pas, la lumière de la Méditerranée. J'aimerais vivre ici. L'expérience la plus immersive, c'est la réalité. Comunitat Valenciana. Méditerranée en live.
à tous les aventuriers de la gastronomie. Au premier homme qui a vu un escargot passer devant lui et qui s'est dit « Miam ». À celui qui a dit en ramassant une huître sur un rocher « Et pourquoi pas ?» Et à celui qui a pêché une lotte en pensant « C'est moche, mais si ça se trouve, c'est bon !»
C'est un peu grâce à vous si jusqu'à samedi, la queue de lotte est à seulement 14,98€ le kilo chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêchez en Atlantique Nord-Est.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio ? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien. Et celui de millions de personnes aussi. Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup ? Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
French Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. Des promos jusqu'au 9 mai avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
French Days sur Zalando.
Bah voilà.
Ce dimanche avec la super tirelire de 2 millions au quintet plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Et là t'as dit trois fois super.
Bah oui, mais je vais le dire encore. Ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre mot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au quintet plus. PMU.
Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Estimation du temps de trajet. Calcul en cours. Calcul en cours. Je n'y arrive pas. Comment avez-vous passé le péage si vite? J'hallucine. Grave.
Excellent. Avec le Pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous n'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
L'obsession de la moisson et l'indifférence à l'histoire, écrit admirablement René Char, sont les deux extrémités de mon arc. Si le temps de l'histoire, en effet, n'est pas fait du temps de la moisson, l'histoire n'est qu'une ombre fugace et cruelle où l'homme n'a plus sa part. Qui se donne à cette histoire ne se donne à rien, et à son tour n'est rien. Mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. Pour finir, ceux-là font avancer l'histoire qui savent, au moment voulu, se révolter contre elle aussi. Cela suppose une interminable tension et la sérénité crispée dont parle le même poète, mais la vraie vie est présente au cœur de ce déchirement. Elle est ce déchirement lui-même, l'esprit qui plane sur...
Eh oui, l'homme révolté par Albert Camus, André Bercoff, Hubert Védrine. Vous avez été ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002. Aujourd'hui, vous menez diverses activités, notamment des activités de conseil en géopolitique. Quelle analyse faites-vous du conflit au Proche-Orient ?
Moi, j'admire la petite minorité en Israël qui, à l'époque, dite Yitzhak Rabin, c'était résigné à ce qu'il y ait un État palestinien. Et la minorité du côté palestinien qui s'était résignée à reconnaître l'existence d'Israël et son droit à la sécurité. Donc j'ai connu cette période extraordinaire où on pouvait espérer qu'il y ait une solution, qui a duré une quinzaine d'années. Parce qu'il y a Rabin, le plus courageux, c'est l'homme le plus courageux que j'ai vu de ma vie. Après, il y a eu assassiné par un Israélien fanatique. Après, il y a eu Peres, il y a eu Ehud Olmert, il y a eu Ehud Barak... Et même Sharon à la fin. Et puis j'ai connu le contraste, c'est-à-dire la quinzaine d'années dominante par Netanyahou, qui dit lui-même qu'il est le rempart contre l'État palestinien.
Il y en aura jamais. Côté palestinien aussi, il y avait une minorité.
Moi je pense qu'il faut revenir à ça. Ouais. Mais ces deux minorités, très courageuses, menacées par leurs propres extrémistes, et si jamais ça redémarre, il faudra qu'ils soient très bien protégés, immédiatement. Parce que ces gens-là ont été menacés dans leur propre camp. Après, il y a tout un cheminement, mais il y a eu beaucoup de tentatives qui n'étaient pas très loin d'une solution, qui ont échoué. Donc aussi curieux que ça puisse paraître après les horreurs du 7 octobre et les horreurs de la guerre de Gaza, je suis pas totalement pessimiste. Il y a quand même pas mal de gens en Israël qui acceptent l'idée, comme étant l'idée de l'État palestinien, qui est la seule
qui puisse garantir... Est-ce qu'il y a, à votre avis, des gens du côté tiers, palestinien et autres qui acceptent l'idée de l'État israélien ?
Alors, du côté palestinien, c'est évident, mais il faut évidemment juguler la... les extrémistes maximalistes, je ramasse frère musulman, donc fait ressurgir un interlocuteur palestinien crédible au lieu de le démolir. Bon. Et du côté du monde arabe, les dirigeants s'en touchent pour un accord, et les peuples, s'il n'y a pas de solution pour les Palestiniens, ils seront toujours opposés. S'il y a une solution, oui, non acceptable, c'est gérable.
La solution à deux États, en fait, c'est la seule possibilité, il n'y a pas d'alternative.
Ben non, il y a d'autres scénarios où Israël élimine tous les Palestiniens, un scénario où les Arabes éliminent Israël, un scénario monstrueux. Donc la seule solution, il n'y en a pas 36, c'est celle-là.
Et oui. Et à propos de l'Ukraine, alors vous avez déclaré au JDD le 19 février dernier, il faut empêcher par tous les moyens Vladimir Poutine de gagner. Mais comment est-ce possible selon vous, Hubert Védrine?
C'est ce que les Américains viennent de décider en revotant finalement. Même Trump a été pragmatique. Il a laissé les Trumpistes de la Chambre des représentants voter les 61 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Il faut empêcher Poutine de gagner contre l'armée ukrainienne. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec la ligne Biden depuis le début. Empêcher Poutine de gagner sans se laisser entraîner dans l'engrenage de la guerre à la Russie. Ça, c'est la bonne ligne. Et ce qui s'est passé récemment... alors, c'est un progrès. Ça ne m'a pas étonné parce que ce n'est pas possible pour l'Amérique qui veut devenir numéro un mondial en dépit des défis chinois. Ils sont à cause des défis chinois. C'est pas possible de laisser perdre l'Ukraine. Mais cela dit, ça ne me conduit pas à imaginer une solution. Parce que même si c'est équilibré, ça conduit, que ce soit Trump ou Biden, à un moment donné une sorte d'enlisement, d'arrêt des combats. Passer de ça à une négociation, à une solution, c'est une autre paire de manches. Mais voilà où j'en suis.
En fait, Hubert Védrine, vers l'Europe de l'Est compliquée, vous ne volez pas avec des idées simples.
Non, d'abord, je suis pas le général de Gaulle, puisque vous citez ses remarques sur le Proche-Orient. C'est pas là où il a été le mieux, d'ailleurs, de Gaulle, en 43, sur le Proche-Orient.
C'est vrai.
Un immense personnage, bon. Donc, il y a ce scénario sur l'Ukraine. Je pense, comme les vieux réalistes américains, qu'il aurait fallu traiter la question autrement, plus intelligemment, avec plus de ruses stratégiques dans la décennie 90. Mais les dernières années, il fallait être plus dissuasif par rapport à Poutine. Et même si je ne crois pas qu'il veuille attaquer l'OTAN, alors que l'OTAN est quand même renforcé, réarmé, etc. Il faut pas créer d'occasion ni d'ambiguïté, donc je suis tout à fait favorable à l'augmentation de la défense des pays baltes ou des environs de la Moldavie, etc. Donc il faut pas être
trop naïf. En tout cas, lisez Camus, notre rempart.
Et oui, paru Camus.
On ne va pas faire du chrony, mais lisez le fondamental, parce que Camus était l'écrivain du fondamental.
Hubert Védrine, merci d'être venu sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou! Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500€ seulement. Moins de 1 500€ la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Écoutez ce son. C'est le son de Grimbergen.
Il annonce l'arrivée de son brassin de printemps.
Une recette qui allie le savoir-faire de la bière d'abbaye
et la fraîcheur des notes fruitées.
Cette édition limitée, c'est une éclosion de saveurs délicates,
douces et subtiles.
Et toujours le goût de la tradition. Grimbergen brassin de printemps.
Pour une saison pleine de fraîcheur.
Grimbergen.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184€.
Venez le ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
TF1.
Voice, les Cross Battles, présentés par Nikos Aliagas, demain sur TF1 et en streaming sur TF1+, en association avec les Indes Radios.
Gémeaux, le prêt à vivre.
Si vous êtes prête à expliquer à vos copines que non, Virginie, c'est toujours pas une nouvelle robe, c'est encore la même que je peux porter de plusieurs manières. Alors vous êtes prête à profiter d'une offre exceptionnelle. En ce moment, chez Gémeaux, la robe multiposition est à 15,99€ au lieu de 29,99€. Offre valable jusqu'au 14 mai. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
Mais où peut-on trouver un salon de jardin à 99,99€?
Et sur ma terrasse, ça devient un salon de terrasse?
On peut dire ça. Alors rendez-vous vite dans votre magasin U et sur courseu.com du 2 au 4 mai et profitez de 50% de remise sur le salon de jardin Miami fabriqué avec 80% de matériaux recyclés, soit 99,99€ au lieu de 199,99€. Et c'est seulement du 2 au 4 mai. U, commerçant autrement.
Dont 3,80€ d'éco-participation, prix conseillé par U Enseigne au magasin U participant et valable sur courseu.com pour un retrait du 2 au 4 mai inclus dans la limite.